de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40.
Et il y a de l'analogie, enfin, des premières recherches de la science, des grands savants comme à l'époque de la Renaissance, et des premières craintes en même temps qu'ils avaient, en pensant que le développement de l'homme ne suivait pas le développement de la science, et que jusqu'à un certain point, leur recherche était dangereuse, en même temps qu'utile.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, voici donc qu'à nouveau, comme chaque année, nous nous retrouvons à Blois, en direct, devant le public des prestigieux rendez-vous de l'histoire. Cette 20e édition est consacrée à l'histoire des sciences et des techniques, sous l'intitulé Eureka, autrement dit, sous le patronage d'Archimède. On sait que ce savant grec du 3e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, aurait eu, selon la légende, cette exclamation « J'ai trouvé !» quand il comprit les lois qui régissent la densité des objets en plongeant quelques-uns dans l'eau de sa baignoire. Un cri de pur bonheur, oui, un cri de pur bonheur, mais dont l'écho lointain pourrait égarer si l'on considérait que le progrès scientifique ne fut jamais, pour les hommes, qu'une source de félicité. J'ai choisi de l'aborder du côté du progrès des techniques sous une lumière moins idyllique. L'homme contre les machines, tel sera ce matin notre thème pour lequel j'ai mobilisé François Jarige, maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Toutes les inquiétudes contemporaines en face des vertiges du progrès scientifique et des nouvelles technologies de la communication, quant à l'organisation du travail, aux équilibres de la nature, à la préservation des libertés individuelles, toutes ces inquiétudes n'ont pas surgi récemment. Elles s'inscrivent en réalité dans la ligne de très longues protestations contre les effets de l'industrialisation des sociétés à partir des machines triomphantes. François Jarige est l'auteur d'un livre récent intitulé « Technocritique » et sous-titré « Du refus des machines à la contestation des technosciences ». Voilà bien qui se pose, n'est-ce pas, comme une belle concordance des temps. Si j'ajoute que mon invité a publié d'autre part en collaboration un ouvrage intitulé « La modernité désenchantée », vous conviendrez qu'il est bien l'homme adéquat ce matin pour traiter de ce sujet. Même si je me hâte de préciser que je n'ai pas l'intention, car ce n'est vraiment pas l'atmosphère de Blois, de jeter sur la science les couleurs d'un noir chagrin. Seulement de proposer quelques reculs par rapport aux fascinations du scientisme.
Dans l'usine qui turbine, la machine fait du bruit. De nos pièces qui se pressent dans les caisses, l'acier luit. Mécanique et cynique, on fabrique sans répit. À la chaîne, dans la peine, dans la haine du profit. Cigarette, allumette. Chansonnette, ça va mieux. En misère sur la terre, pourquoi faire? Nom de Dieu. Mais on baille, on traînaille, on travaille sans ardeur. Marche crève, pas de trêve, pas de rêve, de bonheur. Chronomètre, contre-maître sont les maîtres du destin. Ils nous mènent, nous entraînent, nous enchaînent les deux mains. Les vacances, le silence, l'espérance,
ce songe, ce mensonge nous replonge dans l'enfer, où nos rondes se confondent dans un monde tout en fer. Les machines se débinent dans l'usine, on les suit, et les pièces se redressent dans les caisses et s'enfuient. Mon ami, ma jolie, ma chérie, tu viendras dans ma piole où se frôlent nos épaules, on s'aimera.
François Jarige, bonjour.
Bonjour.
Je ne doute pas un instant que vous ayez reconnu les frères Jacques qui interprètent en 1950 la chanson « Complainte mécanique » sur des paroles d'André Huot et une musique de Paul Misraki. Vous ne direz pas que je n'ai pas élu pour commencer quelque chose d'assez binaire qui oppose très nettement la douceur, la tendresse, l'amour et d'autre part la méchanceté, la noirceur des machines. Est-ce que cette opposition un peu simpliste vous convient, mon cher maître ?
Elle me convient, en tout cas, c'est une très bonne mise en perspective et introduction pour inaugurer notre discussion, puisque le moment où cette chanson est écrite, ça correspond aussi à l'époque où Boris Vian écrit sa complainte du progrès. Et donc c'est une époque marquée évidemment par la reconstruction, par une intensification des transformations techniques du travail, par l'émergence de la société de consommation de masse, par la diffusion de toute une série d'objets dans le quotidien des populations, et ça va être aussi un moment à la fois... donc, d'euphorie, d'enthousiasme et d'intérêt pour ces nouveautés techniques et en même temps d'inquiétude persistante à leur égard. Et là, on retrouve bien cette espèce d'ambivalence hein, qui accompagne toute l'histoire des deux derniers siècles à propos du progrès mécanique et technique.
Cette ambivalence est vraiment très présente dans vos écrits et nous permet de réagir contre une idée un peu simpliste qui voudrait qu'il y ait une sorte de linéarité dans l'admiration à l'égard du progrès, dans l'espérance d'un nirvana qui se refonderait sur l'invention, l'innovation, tout ce qui nous occupe d'ailleurs aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire de Blois.
Mais l'une des évolutions quand même des 30 dernières années chez les historiens pour penser ces questions d'innovation, de changement technique, de progrès mécanique ou industriel, a été justement d'essayer de recontextualiser, de se tourner d'une lecture héroïque, enthousiaste, ayant une vision linéaire et évolutionniste du temps, à une lecture plus complexe, une lecture sociale de ces transformations qui essaye de prendre en compte les différents acteurs qui interviennent dans le processus d'innovation. Il n'y a pas que le fameux entrepreneur et l'innovateur, il y a toute une série d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce changement du monde matériel, et ces autres acteurs n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les entrepreneurs. Et donc, cette contradiction entre les intérêts va aussi susciter évidemment des lectures, des interprétations différentes.
Est-ce que vous diriez que, comme si souvent, nos inquiétudes immédiatement contemporaines, nos questions nouvelles vont colorer les interrogations que nous dirigeons vers le passé, jusqu'en particulier le 16e, le 17e, nous allons remonter loin en arrière. On sait bien, comme disait Croce, que toute histoire est contemporaine.
Oui, mais c'est toujours le même problème quand on parle en historien de ces questions d'actualité, c'est que le risque, c'est de dire, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Finalement, tout a déjà été dit. Donc l'enjeu...
C'est un risque que nous assumons ici, que nous dépassons et que nous donnons triomphe.
Mais je pense que l'historien, ce qu'il peut apporter, c'est pas de limiter son discours à dire il y a rien de neuf sous le soleil. C'est de montrer que, évidemment, le présent est travaillé par tout ce qui vient du passé en permanence. Et on peut pas faire abstraction de ça, sinon on serait pas historien, on s'intéresserait pas à l'histoire. Et en même temps, c'est voir ces différences, ça permet de comprendre ce qu'il y a de réellement singulier et spécifique à notre époque.
Je regrette qu'on nous ait pas filmé la télévision, vous feriez une admirable bande-annonce pour Concordance des temps. ça s'appliquerait absolument à toutes nos.
Le projet de mon livre est très proche du projet de l'émission à cet égard.
Eh bien, c'est pour ça que vous êtes ici à mes côtés, que nous allons parler de l'homme contre les machines. Mais d'abord, je voudrais, comme souvent, qu'on commence par une réflexion sur les mots eux-mêmes. Machine, par exemple. D'où vient le mot machine, technique, technologie? Faites-nous un peu d'étymologie. Alors.
Vous avez raison, c'est un point fondamental parce que sur ces questions-là, le langage construit une sorte de voile qui rend le passé un peu opaque. Parce que, évidemment, le XXe siècle... Le 19e et le 20e siècle ont vu une prolifération de nouveaux mots, de mots qui ont pris une nouvelle signification. Ce qui fait que appliquer ces catégories qu'on utilise aujourd'hui, l'innovation, la technologie, la technique, les machines au passé, implique de faire un petit travail quand même de précision dans le vocabulaire. Parce que c'est ce que je vais faire. Donc les mots technique, technologie, innovation avaient pas du tout le même sens. à l'époque moderne, si on parle du 18e siècle. Si vous ouvrez un dictionnaire du 18e siècle à l'entrée technique, la technique, c'est d'abord un art de faire. Et la première occurrence pour décrire ce qu'est une technique, c'est les techniques permettant de se remémorer un poème. La technique, c'est d'abord un art de faire, c'est d'abord un savoir-faire dans l'ordre, dans un ordre très large. Le fait de ramener la technique à l'ordre matériel, au procédé de fabrication, c'est quelque chose qui va se mettre en place avec l'industrialisation. De même, l'innovation est un mot qui n'existe quasiment pas à l'époque moderne, sinon pour décrire des transformations, des nouveautés dans l'ordre religieux ou juridique. Mais l'innovation ramenée à la question de la production de l'industrie, c'est quelque chose qui va se mettre en place chez les économistes du 19e siècle jusqu'à triompher aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui le mot innovation est devenu une sorte d'étiquette quasiment mythologique qu'on applique à tout. Mais ça, c'est quelque chose de très récent. La prolifération de l'utilisation de ce mot innovation, c'est dans la deuxième moitié du 20e siècle.
Vous nous confirmez donc, je vous interromprai par moment, ça pourrait arriver.
Je parle un peu trop longtemps.
Mais ça pourrait arriver, je vous en avertis. Non, ça prouve finalement que le vocabulaire est souvent le serviteur de l'anachronisme. Vous nous le confirmez.
Tout à fait.
Alors revenons, le mot technique, plus concrètement, quand est-il apparu ?
Le mot technique, c'est un mot qui a une étymologie grecque. La techné, ça désignait l'art de faire. Mais le mot est très peu employé au 18e siècle. Le mot technique est très peu employé. Il commence à rentrer vraiment dans le dictionnaire et à décrire en fait ce nouveau monde matériel des sociétés industrielles au milieu du 19e siècle. De même, la technologie. Le mot technologie est très intéressant. Parce que le mot technologie tel qu'on l'emploie aujourd'hui, c'est l'ensemble des nouveautés techniques qui sont mises sur le marché, qui sont disponibles. Ça, c'est une réinvention par l'Angleterre du vieux mot technologie du 18e siècle. La technologie, c'est un mot qui désignait à l'origine le discours sur la technique. La technologos, c'est-à-dire le discours sur la technique, l'analyse des techniques.
C'est l'étymologie normale.
C'est l'étymologie normale. Et ce mot a disparu au milieu du 19e siècle et a été en fait réintroduit après 1945, importé de l'anglais, puisqu'en anglais, technologie ne voulait pas dire le discours sur la technique ou la science du fonctionnement des mécaniques et des machines. La technique désignait en fait l'ensemble des dispositifs matériels disponibles à l'époque.
C'était venu d'Angleterre avant le Brexit.
Bien avant le Brexit.
Alors, mais je voudrais que nous revenions plus en arrière, jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, parce que on y trouve, notamment quand on vous lit, qu'il s'agit d'une période de doute et d'interrogation dans cette période pré-industrielle, avec une crainte en face des nouveautés. Le Goff, le grand historien du Moyen-Âge, a dit que c'était un temps foncièrement anti-progressiste sur le plan technique. Il n'est sans doute pas de secteur, dit-il, de la vie médiévale où l'horreur des nouveautés, entre guillemets, n'est agi avec plus de force anti-progressiste que dans le domaine technique. Innover était, plus encore qu'ailleurs, une monstruosité, un péché. Il mettait en danger l'équilibre économique, social et mental. Je suis intéressé par le fait que, dès ce moment-là, se mêlent des préoccupations morales et des préoccupations scientifiques.
Oui. Alors, bon, moi, je suis pas du tout médiéviste et on pourrait remonter loin, mais la question est compliquée. Dans les sociétés pré-industrielles, ce que je veux juste souligner, c'est que dans les sociétés pré-industrielles, pré-19e siècle, le statut des techniques, le statut des artefacts matériels n'était pas du tout le même que dans les sociétés qui vont se mettre dans les sociétés contemporaines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un attrait spontané, naturel pour l'innovation, pour la nouveauté dans l'ordre technique comme dans l'ordre culturel ou religieux. La nouveauté était d'abord perçue comme une menace qui risquait d'introduire de la dissension, qui risquait d'introduire de la perturbation dans un ordre qui était un ordre instauré par Dieu et donc qui devait rester de toute éternité stable. Alors, il y a des débats gigantesques parce qu'évidemment, les historiens des dernières décennies ont beaucoup travaillé et ont montré que là où on voyait de la stagnation, on voyait de l'absence d'innovation, en réalité, il y avait de l'innovation. Toute l'historiographie des 30 dernières années tend à revaloriser le fait qu'il y a des transformations techniques.
Il y a même eu des machines dans l'ordre du textile, machines à foulon.
Il y a toute une série de nouvelles machines qui apparaissent à partir de ce qu'on a appelé parfois la révolution industrielle des 12e et 13e siècles qui marquent une transformation des conditions de production dans la sidérurgie, dans le textile, la multiplication des roues hydrauliques qui transforment les bases matérielles des sociétés. Donc c'est des sociétés où les transformations existent. Il ne faut pas imaginer ces sociétés stables. Mais la valorisation de l'innovation technique n'existe pas comme telle.
Et pourtant, il y a un franciscain anglais du XIIIe siècle qui va oser vous contredire, François Jarry, puisqu'il s'agit de Roger Bacon, savant, théologien, qui a été très lié aux universités de Paris et d'Oxford. C'est un texte extrait de ses lettres sur les prodiges de l'art et de la nature, qui était lu par Pierre Guéant. Je dis bien Pierre Guéant, dans le cadre de l'émission Les Lundis de l'Histoire, de Jacques Le Goff précisément, sur France Culture, le 20 novembre 1978. Nous allons l'écouter et puis vous me direz si vous vous sentez contredit dans votre propos antérieur ou si vous nous trouvez une synthèse habile entre ce que vous nous avez dit et ce que nous dit Roger Bacon.
peut construire des machines telles que les grands navires, maritimes ou fluviaux, en étant munis, et un seul homme les montant et les gouvernant, ils auraient une vitesse bien plus grande que s'ils étaient pleins de rameurs. On peut aussi faire des chars, qui n'étant tirés par aucun animal, se meuvent avec une vitesse considérable. L'on pense que tels étaient ces chars à feu, sur lesquels combattaient les anciens. On peut aussi construire des machines volantes. Un homme est assis au centre de l'appareil et fait tourner un mécanisme qui actionne des ailes artificielles qui battent l'air comme un oiseau en vol. Également une machine de petite dimension pour pouvoir élever ou descendre des poids d'une pesanteur infinie. On peut construire des instruments à l'aide desquels un homme tirerait à lui 1000 personnes avec violence et malgré elle. Il en est de même pour les autres espèces de traction. On peut aussi faire des appareils avec lesquels on se promène dans la mer et au fond des fleuves sans aucun danger pour le corps. Alexandre le Grand se servit de cette machine pour surprendre les secrets de la mer, d'après ce que raconte Éticus l'astronome. Toutes ces choses ont été expérimentées, soit dans l'Antiquité, soit à notre époque, et je les affirme être véridiques, excepté l'appareil à voler, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus l'homme qui l'ait observé, mais je connais intimement le savant qui l'a inventé. On peut faire une infinité d'autres choses du même genre, telles que les ponts qui traversent les fleuves sans pile ni soutien, des machines et bien d'autres choses peu connues.
La musique était destinée à faire un bref arrêt entre ce que dit Bacon et ce que vous allez nous dire, qui va probablement le contredire. Oui, parce qu'en même temps, sauf les avions, il a tout prévu.
Mais je me permettrai pas de contredire Bacon, fameux savant, alchimiste, philosophe du XIIIe siècle.
Vous ne courez pas grand risque.
Et qui a été inventé. Mais ce qui est intéressant, c'est que typiquement la figure de Bacon comme précurseur de l'invention, de toutes ces découvertes. C'est aussi le 19e siècle qui va être fasciné par ça. Figuier a écrit un texte où il valorise Louis Figuier, grand vulgarisateur du 19e siècle. Bacon, où il va en faire une sorte de précurseur de la révolution scientifique, de la révolution industrielle. De même, on va faire de Léonard de Vinci une sorte de mécanicien et d'inventeur génial.
Mais ils n'ont pas inventé ces textes.
Mais bien sûr, mais ces textes existent et la fascination pour l'ordre mécanique existe de toute éternité, d'une certaine manière. Dans l'Antiquité, il y a des textes aussi fascinants où le monde mécanique commence à intéresser. Mais la question, c'est de savoir, entre les discours et les pratiques, la question, c'est de distinguer entre les projections imaginaires vers un futur qui serait modelé par ses capacités techniques et la réalité des pratiques sociales de l'époque. Moi, mon projet, c'était de sortir d'une lecture héroïque, un peu mythologique de l'invention pour tenter une histoire sociale des inventions telles qu'elles se diffusent, telles qu'elles sont appropriées, telles qu'elles sont mises en débat par les contemporains et les sociétés. Or, la machine volante, comme vous le savez, n'a pas été inventée au XIIIe siècle et ne s'est pas diffusée à cette époque-là. Et c'est intéressant de voir Bacon dire qu'il l'a pas vu de ses yeux, mais il connaissait celui qui l'a inventé.
L'homme qui a vu l'ours.
Donc là, on est dans un discours qui est Bacon, c'est lui qui a essayé de porter aussi la méthode expérimentale, de fonder la recherche de la vérité non plus seulement sur le discours de la religion et la théologie, mais sur l'expérience. C'est pour ça que beaucoup en ont vu un précurseur de la révolution scientifique. Et cette attention, et d'ailleurs Bacon a été aussi quelqu'un qui a été, puisque la différence à l'époque entre savant et mécanicien est très floue. Hein. Bacon avait mis au point des techniques d'optique, a amélioré les verres, a inventé des télescopes. Donc lui-même a été un praticien dans différents ordres du savoir.
Alors nous avançons, puisque vous avez parlé de laissons Bacon, et nous avançons jusqu'à la Renaissance. Vous évoquez Léonard de Vinci. J'ai envie de vous faire évoquer un roman très 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 fameux, grand succès, qui est L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. D'abord parce qu'il touche directement à notre sujet, et puisque j'aime bien rendre hommage à Marguerite Yourcenar, qui termine, comme vous le savez, notre générique chaque semaine, et que de surcroît, en prime, nous vous avons offerte dans ce que nous appelons la pastille au milieu du générique.
C'est un roman qui poursuit un peu ce qu'elle avait fait avec les mémoires d'Adrien, une sorte de roman qui met en scène une époque à travers le regard d'un personnage fascinant. Et là, c'est l'histoire de Zénon, une sorte de savant, d'alchimiste qui va toute sa vie être persécuté par l'Inquisition, par les artisans, par les corporations. Il aurait notamment mis au point un métier à tisser qui aurait suscité la révolte des tisserands et qui l'aurait persécuté. Et là, en fait, alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a un mélange entre la construction imaginaire de Marguerite Yourcenar dans les années 70 et qui calque évidemment la situation. Parce que à la Renaissance, il y a toute une série d'innovations intellectuelles, d'innovations mécaniques, mais ce qu'il faut souligner, c'est que À l'époque, les mécaniques sont inscrites dans la société. À l'époque, les mécaniques, les transformations techniques, les transformations des métiers sont l'œuvre de ce que Husserl appelle l'invention collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une innovation qui viendrait d'en haut et qui se diffuserait dans le corps social. Les innovations, en fait, sont produites par les communautés d'artisans, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, l'art et la technique font un. Les savants sont aussi des artisans. La séparation qui va se mettre en place avec l'âge industriel entre des artisans qui travailleraient de façon traditionnelle à la main et de l'autre côté la grande industrie qui serait connectée à la science, cette séparation n'existe pas.
C'est Léonard au fond la fois.
Mais c'est Léonard et la plupart en fait des penseurs de cette époque-là.
Alors le pauvre Zénon, le Zénon de Marguerite Yourcenar, voulait dans sa jeunesse aider des marchands à mettre au point des métiers à tisser mécaniques. Ces ouvriers de bois et de métal qui ne buvaient ni ne braillaient faisaient à 10 l'ouvrage de 40 et ne profitaient pas de la cherté des vivres pour demander une augmentation de prix. C'est déjà la question de
tout à fait.
Et le pauvre Zénon doit considérer qu'il se heurte au refus de ses métiers, l'hostilité du peuple. Nous ne sommes pas, affirme un tisserand, nous ne sommes pas faits pour nous démener entre deux roues comme des écureuils en cage.
Mais ça en dit presque plus sur les années 1970 en réalité que sur l'époque de la Renaissance.
Nous avons bien compris que le va-et-vient est toujours présent dans la réflexion de l'historien.
Et donc cette question des ouvriers du textile s'opposant à l'invention des nouveaux métiers à filer, à tisser, c'est une question qui va devenir d'actualité en fait au XVIIIe siècle, au moment où l'innovation technique s'accélère, au moment où les pratiques de travail commencent à se transformer à une vitesse accélérée. Et donc c'est à cette époque-là qu'effectivement, il y a des communautés d'ouvriers, notamment dans le textile, qui vont s'ameuter, qui vont s'attaquer à des mécaniques, et que ça va inaugurer ce grand débat sur le chômage technologique, sur ce que vous avez appelé, pour comme titre de l'émission, l'homme contre les machines. Mais, enfin, on va sans doute en discuter, je veux pas...
Très probablement, oui.
C'est le sujet de l'émission.
Donc, très probablement. Le 17e, le 18e... Nous allons arriver, en effet, à ce qu'on a appelé le ludisme, que je voudrais que vous éclairiez. Ce Ned Ludd, qui aurait été le premier à casser des machines par refus des effets supposés pernicieux du côté de l'emploi, pour créer du chômage. Ce fameux Ned Ludd, on apprend en vous lisant, et quelques autres, que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il n'a jamais existé. C'est un mythe, comme souvent en histoire. Alors qui était-il, ce personnage qui n'a pas existé? Vous allez quand même nous le décrire.
Mais alors, je vais vous le décrire. C'était le roi Ludd, le grand justicier. En fait, c'est comme Robin des Bois dans la culture populaire américaine. C'est une sorte de figure mythologique qui va être utilisée par les ouvriers pour donner de la légitimité à leur cause. Je vous explique en deux mots. Entre 1811 et 1812, l'Angleterre, qui connaît une grave crise économique, une période de chômage à cause du blocus continental, des guerres napoléoniennes, les marchés européens sont fermés aux productions anglaises. Et donc, il y a un effondrement de la production textile anglaise, ce qui crée beaucoup de misère dans la région de Manchester. Il y a plus d'un tiers de la population qui se retrouve sans travail. Or, c'est également une époque qui voit l'arrivée de toute une série de transformations techniques dans l'industrie textile. Et ça va aboutir, je passe sur les détails, mais ça va aboutir pendant de longs mois à une série de grandes révoltes sociales qui vont jouer un rôle très important et qui vont marquer les esprits en Angleterre, qu'on va appeler le ludisme. Pourquoi le ludisme? En fait, il y a des ouvriers très différents, des ouvriers bonnetiers, des ouvriers tisserands, des ouvriers tondeurs de draps dans l'industrie de la laine, qui vont la nuit se déguiser et aller détruire des machines, des nouvelles machines à tondre, des nouvelles machines à tisser dans différentes régions. Or, c'est des luttes dispersées, éclatées. Or, qu'est-ce que vont faire ces ouvriers? En fait, ils vont utiliser une sorte de figure mythique pour donner une unité à ces luttes, à ces cohérences. Et cette figure mythique, c'est Ned Ludd. Alors, Ned Ludd, il y a toute une série de débats, d'interprétations pour savoir d'où ça vient. Alors, selon la légende...
Pour résumer.
Pour la résumer, ça serait un ouvrier qui aurait brisé les métiers de son maître à la fin du XVIIIe siècle. Et c'était devenu une sorte d'expression proverbiale dans les régions textiles anglaises de dire... Faire un travail de Ludd, c'est faire un travail de sagouin et c'est pas bien s'occuper de ses métiers textiles. Et de fil en aiguille, ils vont en arriver à se placer derrière cette figure de Ned Ludd. Et ici, en fait, ils envoyaient des lettres de menace aux industriels en leur disant si vous installez tel ou tel métier comme vous l'avez prévu, on va venir en bande détruire vos installations industrielles. Et ils signaient Ned Ludd. L'objectif, c'était de faire peur au gouvernement en faisant croire qu'il y avait une armée organisée avec un chef, une hiérarchie qui structurait ces révoltes, qui étaient d'abord des révoltes sociales dispersés. Et en fait, c'est la presse. C'est par la presse que les différentes communautés ouvrières ont entendu parler de Ned Ludd et ont repris ce nom pour donner du sens à leur lutte.
Le 11 mars 1811, 63 métiers sont détruits dans les Midlands. C'est là que les ouvriers s'emparent en effet du symbole. Ils veulent lutter, protester contre la dégradation de leurs conditions et ce qu'ils appellent le travail bâclé. Mais il faut s'appuyer aussi sur toute une réflexion plus théorique. Il y a des écrits au XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau est intéressant parce qu'il y a vraiment deux familles. Il y a ceux qui se laissent emporter, ou à juste titre ou à mauvais titre, par l'enthousiasme de ce qui se crée, des machines, et d'autres qui sont très réticents. On sait que Rousseau s'est beaucoup mêlé d'économie politique, et ses écrits sur cette question méritent, je crois, d'être relevés. Vous voulez bien le faire ?
Si vous voulez, mais ce qu'il faut souligner, donc, c'est que on peut parler de deux choses différentes. Il y a les communautés ouvrières, les mondes du travail, et leur réaction face à cette transformation du travail. Et puis, il y a l'émergence progressive d'une économie politique, c'est-à-dire une théorie de la richesse, une théorie de l'accroissement de la richesse qui va se constituer entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Alors, évidemment, Rousseau, bon, on pourrait faire l'émission entière sur Rousseau. Rousseau va être une figure ambiguë à l'égard de cette nouvelle imaginaire du progrès qui se met en place. Et Rousseau interprétait de façon inquiète, de façon critique, l'émergence de ce nouveau monde mécanique. Mais Rousseau est un homme du XVIIIe siècle qui accorde assez peu d'importance à ce que vous voulez, à la question des machines proprement dites. Hein, Rousseau, il est dans l'époque pré-mécanique. Il est dans une époque où les mondes mécaniques et le monde des machines n'obsèdent pas encore les penseurs, les intellectuels. C'est pour ça que sur ces questions-là, il faudrait mieux parler de quelqu'un comme Jean-Baptiste Say, qui lui a répondu aux ouvriers qui brisaient les machines. Parce que j'ai évoqué le ludisme, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Vous savez qu'en 1789, le 14 juillet 1789 à Rouen, les ouvriers du textile rouennais ont brûlé en place publique des nouveaux métiers à filer qui venaient d'être importé d'Angleterre quelques mois auparavant. Dans les cahiers de doléances rouennais du début de l'année 1789, on trouve dans plus de 50% des cahiers de doléances de la région des articles demandant l'interdiction des mécaniques ou la destruction des nouvelles machines de filature qui risquent de bouleverser le marché du travail et les conditions de travail. Donc c'est entre les années 1780 et les années 1840, il y a un moment où il y a une forte conflictualité sociale autour de ces machines, ce qui va amener les penseurs de l'économie politique naissante à se positionner. Et Jean-Baptiste Say, c'est quand même très intéressant, dans son grand traité d'économie politique, qui fonde l'économie politique libérale en France, consacre un chapitre à répondre aux ouvriers. À répondre aux ouvriers briseurs de machines, qui lui-même avait des intérêts dans l'industrie textile de Rouen, et répond aux ouvriers en leur expliquant pourquoi ils ont tort en brisant les machines, parce que, et c'est là qu'il invente ce qu'on appelle la théorie du déversement. C'est-à-dire que le changement technique ne crée pas de chômage, ne crée pas de misère, puisque les emplois détruits dans une activité vont réapparaître dans d'autres activités.
Voilà qui nous est assez familier, parce que voilà. C'est des questions, on ne rit pas contre vous, on rit parce que votre enthousiasme m'empêche parfois d'intervenir dans notre conversation. Mais je vous en fais par proche, c'est au contraire une manière de saluer votre compétence. Sérieusement, c'est aussi le moment où se fondent des débats entre les acteurs, les écrivains et puis des gens, par exemple, comme ce personnage, le compositeur Henri Jador, qui imagine un dialogue entre une presse mécanique et une presse à bras, recueillie et racontée par une vieille presse en bois. Et il adopte un ton prophétique et menaçant pour s'adresser à la machine. « Toi, l'égoïsme t'a donné la vie. Tu penses vivre éternellement parce que tu te crois la première des machines. Mais vois Charles X, autrement dit, il est tombé. Ceux que tu réduis à la misère l'ont renversé pour avoir voulu t'imiter. Ainsi, prends garde, si tu veux faire de la tyrannie, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. » Ça, c'est pas mal aussi pour Concordance des temps.
Cette brochure, ça s'inscrit en 1830, au lendemain de la révolution de juillet 1830, les imprimeurs typographes parisiens détruisent toutes les nouvelles presses mécaniques qui avaient été installées dans l'imprimerie royale. Et c'est les presses mécaniques, notamment actionnées par la machine à vapeur, commencent à être mises au point en Angleterre vers 1815 et vont peu à peu se répandre autour de 1830 en Europe. Et ça va susciter une levée de boucliers, notamment chez les imprimeurs parisiens, qui y voient une menace pour, à la fois pour la qualité du travail, pour leur position dans les ateliers, au profit des plus gros ateliers qui essayent de s'imposer sur le marché. Et donc ils vont détruire les machines, ils vont même mettre en interdit les ateliers ayant utilisé les mécaniques, les nouvelles mécaniques anglaises dans les mois précédents, et ils vont profiter de la révolution pour faire entendre leurs revendications. Et au début des années 30, ils vont publier toute une série de petites brochures. Ce qui est intéressant avec les typographes, mais je vais pas être trop long, c'est que c'est des lettrés, c'est-à-dire qu'ils savent écrire, et ils publient des brochures pour justifier. Et donc ils répondent à Jean-Baptiste Say. Ils répondent à cet argument du déversement en expliquant que c'est un argument abstrait qui ne veut rien dire, puisque le déversement ne prend pas en compte la transition. C'est-à-dire oui, effectivement, à terme, sans doute, il y aura peut-être autant d'emplois sur le marché du travail, mais ça, c'est une lecture abstraite d'économie. Ce qui compte, c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire de nos qualifications, de nos savoir-faire et de cette période de transition. Et donc se met en place évidemment un débat qui ne va pas cesser de ressurgir durant deux siècles.
et qui est tout à fait qui est tout à fait vivant aujourd'hui, bien sûr, tout à fait vivant. Et je suis content que vous insistiez sur le monde des typographes, parce que là il y a une continuité dans le long terme effectivement particulièrement notable jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu les débats il y a quelques années ou quelques décennies autour de la CGT du livre. Dans quelle mesure pouvait-on accepter des modifications qui diminueraient grandement le nombre des employés de qui fabriquaient par exemple les journaux, le Monde et d'autres quotidiens. De ce point de vue-là, il y a sûrement une continuité. On peut qu'être sensible au fait que les auteurs de l'époque ont des comportements, prennent des positions assez contradictoires envers l'idée du progrès, posé comme un bien en soi ou comme un sujet d'inquiétude tel que nous pouvons l'éprouver aujourd'hui, cette ambivalence que vous évoquiez en commençant. Je vais vous faire entendre un poème de Victor Hugo. Victor Hugo, plus souvent, chaque fois qu'on peut faire entendre Victor Hugo, c'est bien. C'est un extrait du poème « Abîme, l'homme ». Abîme l'homme, ça c'est très Victor Hugo comme titre. Abîme l'homme de Victor Hugo, qui est paru dans le recueil La Légende des siècles en 1859. C'est une lecture extraite de l'émission Le roman de la science de Jean Luc, consacrée au poète du progrès, diffusée le 31 août 1951. Hommage de Victor Hugo au progrès. Vous nous direz peut-être ensuite qu'il n'a pas été constant dans cet enthousiasme envers le progrès. Nous l'écoutons.
Le beau progrès vermeil, l'œil sur l'azur fixé, marche, et tout en marchant dévore le passé. Je veux, tout obéit, la matière inflexible cède, je suis égal presque au grand invisible. Coteau, je fais le vin comme lui fait le miel, je lâche comme lui des globes dans le ciel, je me fais un palais de ce qui fut ma geôle, j'attache un fil vivant d'un pôle à l'autre pôle, je fais voler l'esprit sur l'aile de l'éclair, je tends l'arc de Nemrod, le divin arc de fer, et la flèche qui siffle et la flèche qui vole, et que j'envoie au bout du monde, est ma parole. Je fais causer le Rhin, le Gange et l'Oregon comme trois voyageurs dans le même wagon. La distance n'est plus. Du vieux géant espace, j'ai fait un nain. Je vais, et devant mon audace, les noirs titans jaloux lèvent leur front flétri. Prométhée, au Caucase enchaîné, pousse un cri, tout étonné de voir Franklin voler la foudre. Fulton, qu'un Jupiter eut jadis mis en poudre, monte Léviathan et traverse la mer. Galvani, calme, étreint la mort au rire amer. Volta prend dans ses mains le glaive de l'archange et le dissout. Le monde, à ma voix, tremble et change. Caïn meurt, l'avenir ressemble au jeune Abel. Je reconquiers Éden et j'achève Babel. Rien sans moi, la nature ébauche, je termine. Terre, je suis ton roi.
C'est assez Victor Hugo, non? Mais voilà quelqu'un qui est enthousiaste. Il n'a pas toujours été, me disiez-vous.
Non, mais il y a eu une très belle thèse sur Victor Hugo et le progrès technique, qui est un historien de la littérature qui s'est intéressé à cette question, qui a essayé de relire l'œuvre de Victor Hugo à partir d'une attention particulière à cette question du monde technique. Et bon, effectivement, ce que dit cet auteur, c'est que Victor Hugo a évolué, notamment à partir de son exil. Dans ses textes de la monarchie de Juillet, Victor Hugo n'était pas encore devenu une sorte de chantre, de prophète du progrès, comme on voit dans ce texte.
C'était aussi
l'époque où il était conservateur et légitimiste sur le plan politique, et il a eu des textes assez terribles sur l'exploitation des enfants, sur les grandes mécaniques industrielles qui appauvrissent, à une époque où la dénonciation de l'ouvrier machine, de l'exploitation du prolétariat victime des ouvriers, se retrouve dans des espaces discursifs très divers. Chez les conservateurs, effectivement, on le trouve. Chez des auteurs romantiques très divers, on trouve ces discours dans les années 1830-1840. On le trouve aussi chez les socialistes, on pourrait y revenir si vous voulez. Et après 1850, on rentre vraiment dans le moment où se construit un consensus sur le progrès technique, sur ses bienfaits, sur ce qu'on peut en attendre. C'est vraiment l'époque du triomphe du chemin de fer, l'époque d'accélération de l'industrialisation. On pourrait reprendre tous les personnages qu'il cite. Fulton, c'est l'époque où Fulton, celui qui a inventé la navigation à vapeur aux États-Unis au début du 19e siècle, où justement la navigation à vapeur prend son essor considérable et s'impose.
Volta,
c'est l'inventeur de la pile électrique qui prépare le terrain aussi à cette révolution électrique qui aboutira surtout à la fin du siècle. Bon, il y a toute une série. Donc, Prométhée était également évoqué, le modèle, la figure de Prométhée comme celui qui a volé le feu et qui donc est en quelque sorte le titan mythologique à l'origine du monde technologique contemporain, devient une figure très fréquemment citée autour des années 50. Donc, ce poème de Victor Hugo est un beau reflet de cet enthousiasme et de ce scientisme et de cette fascination pour la machine qui se met en place vraiment au milieu du 19e siècle. Mais pour
Mais elle n'est pas unanime. Néanmoins, je vois que Michelet évoquait la servitude de l'ouvrier dépendant des machines. Et puisque vous évoquez le feu, c'est naturellement le chemin de fer et ses progrès qui s'imposent à l'attention. Mmh. Et en face de Victor Hugo, il y a un poème très fameux d'Alfred de Vigny, qui est La Maison du Berger, dont je vous lis quelques vers. C'est tout à fait une autre tonalité que celle de Victor Hugo. Sur le taureau de fer qui fume, souffle et beugle, l'homme a monté trop tôt. Nul ne connaît encore quels orages en lui porte ce rude aveugle. Et le gai voyageur lui livre son trésor. Son vieux père et ses fils, il les jette en otage dans le ventre brûlant du taureau de Carthage, qui les rejette en cendres aux pieds du dieu de l'or. Tout est là, non ? C'est peut-être pas votre style à vous, mais il dit bien les mêmes choses.
Ah mais tout à fait, mais Alfred de Vigny a écrit des... Alors ce qu'il faut voir, c'est que ces textes sur le train et sur le monstre ferroviaire qui arrive sont contemporains des premiers pas du chemin de fer et contemporain d'une série de graves accidents ferroviaires qui vont marquer l'opinion sous la monarchie de Juillet en 1846.
Donc c'est le profit qui a poussé à la construction des chemins de fer et voilà ce que cela donne.
Dans les années 40, il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le chemin de fer. Évidemment, avec un regard rétrospectif, le chemin de fer peut apparaître comme une évidence naturelle qui a transformé nos sociétés. Mais dans les années 40, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est des investissements inutiles, qu'il vaudrait beaucoup mieux investir dans les canaux, par exemple, qui étaient encore très utilisés, qui étaient très développés, dans le transport routier. Victor Considérant, un socialiste de 1841, pourtant ingénieur polytechnicien, fait un texte en 1841.
Mais Franck-Antoine.
Mais bien sûr, mais ce qui change tout. Mais il écrit un texte contre le chemin de fer en 1841 pour dire que c'est des choix techniques qui sont absurdes. C'est une gabegie, c'est lié en fait à quelques financiers qui veulent faire de l'argent, mais que c'est une aberration sur le plan technique. Donc ces textes des années 40 à l'égard du chemin de fer, en fait, sont révélateurs aussi d'un contexte d'incertitude. Et c'est ça souvent le problème dans l'histoire des techniques, c'est que c'est toujours finalement les trajectoires qui se sont imposées et les points de vue dominants qui finalement l'emportent et qui nous amènent à réinterpréter le passé à partir de ces lectures dominantes. Mais si on se replace dans le contexte, et c'est le travail de l'historien, on se rend compte que les incertitudes sont beaucoup plus grandes. Et ces incertitudes, c'est pas juste être pour ou contre le progrès, c'est être en fait débattre de différentes trajectoires possibles. L'enjeu, c'est jamais d'être pour ou contre le progrès en général. Le progrès est une catégorie trop abstraite et trop vaste pour qu'un historien puisse s'en satisfaire, à mon avis. À chaque époque, la question, c'est de savoir qu'est-ce que sera le progrès.
Ce que vous nous dites, en somme, c'est que l'historien doit se méfier de la téléologie. Et c'est un danger constant. Penser que ce qui est arrivé devait fatalement arriver, ce qui empêche d'apercevoir pour chaque instant le foisonnement des possibles.
Exactement.
Qui n'ont pas eu lieu et donc, d'une certaine façon, la liberté des acteurs.
Exactement.
Et cela vaut pour notre sujet comme pour d'autres.
Ça vaut pour l'innovation technique, peut-être encore plus que pour d'autres, parce que dans ce domaine, les discours évolutionnistes, linéaires et mythologiques ont été particulièrement puissants, forts, et ils se mettent justement en place dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Mais vous citiez un socialiste considérant, il est intéressant de noter que ce courant vient à la fois du côté des acteurs de l'industrie et du côté d'un certain nombre de penseurs du socialisme, et au fond Saint-Simon fait assez bien la synthèse entre les deux, Saint-Simon et les Saint-Simoniens en tout cas. Puisque chez eux, il y a le culte du progrès. L'objet de l'industrie, disait Auguste Comte après Saint-Simon, il avait été son collaborateur, est l'exploitation du globe, c'est-à-dire l'appropriation de ses produits aux besoins de l'homme. Et comme en accomplissant cette tâche, elle modifie le globe, le transforme, change graduellement les conditions de son existence, il en résulte que par elle, l'homme participe en dehors de lui-même, en quelque sorte, aux manifestations successives de sa divinité et continue ainsi l'œuvre de la création. De ce point de vue, écoutez bien, l'industrie devient un culte. Non, j'ai eu tort, c'est pas d'Auguste Comte, c'est de Saint-Simon lui-même, ce texte. Le progrès acquiert une signification religieuse. C'est assez fascinant de voir, je parlais de la morale, il y a aussi la religion qui s'entremêle de façon intime avec ses réflexions, ses réactions, ses affectivités qui entourent le progrès mécanique.
Oui, alors c'est sûr que la phrase que vous venez de citer est magnifique pour illustrer cette espèce de transfert de sacralité à laquelle on assiste au milieu du 19e siècle vers le monde de la technique et de la science. Et alors, les socialistes, il y aurait énormément de choses à dire, évidemment, puisque les socialistes ont inventé les sciences sociales et ont inventé une manière de penser la technique de façon très intéressante, parce qu'ils réagissaient aux économies politiques libéraux qui considéraient, en fait, comme Jean-Baptiste Say, que j'évoquais tout à l'heure, mais comme beaucoup d'autres à l'époque, qui considéraient que pour résoudre les problèmes soulevés par les transformations techniques, il fallait s'en remettre au marché. C'est-à-dire que le marché ajusterait naturellement les sociétés au nouveau monde mécanique. La position des socialistes, à la différence des libéraux, c'est d'avoir un discours, là encore, ambivalent. Mais qu'est-ce que le socialisme historiquement au XIXe siècle? Le socialisme, c'est un projet visant à mettre les machines, précisément, qui sont en train de transformer la société au service du plus grand nombre, grâce à des transformations institutionnelles, à des redéfinitions des rapports sociaux qui permettraient de mettre la machine au service de tous. Et donc, il y a un projet qui se construit et qui a un effet intéressant. C'est-à-dire, l'objectif, avec les socialistes, la machine cesse d'être un problème. C'est-à-dire que la machine cesse d'être un problème, la machine devient neutre. L'enjeu va être de mettre en place les bons dispositifs institutionnels pour adapter la société et mettre au service ces machines du progrès humain. Et on trouve ça chez, d'une certaine manière, avec des différences très nettes, chez Fourier, alors chez les, évidemment, chez les disciples de Saint-Simon. Alors, encore un franc-comtois, bien sûr, mais ça c'est très... Mais alors, chez Fourier, c'est très intéressant. Vous voyez que Fourier écrit dans les années 1820. Les machines ont quasiment pas de place chez lui. Dans son modèle socialiste, ça sera essentiellement un monde rural, un monde d'artisans.
Le phalanstère, oui, n'est pas très...
Le phalanstère se met dans un monde rural. C'est ses disciples. Un Fourier écrit dans les années 20, et on voit la grande transformation des représentations à l'égard du progrès technique entre les années 20 et les années 1840. En 1840, c'est plus possible. Les descriptions du phalanstère par les disciples de Fourier sont désormais intégralement mécanisées. Le phalanstère devient une sorte de grande usine automatisée. Alors, vous citiez les Saint-Simoniens, il faudrait citer Étienne Cabet, l'une des plus grandes utopies techniques.
L'Icarie.
L'Icarie de Cabet, c'est quoi l'Icarie de Cabet? C'est donc une société communiste, une république communiste utopique, où... Quand vous lisez Cabet, vous avez en fait un traité sur les machines où il décrit l'automatisation généralisée. Il y a des usines où il y a des robots en fait qui transforment la matière première en biens manufacturés de façon quasiment automatisée.
Et l'homme se tourne les pouces sur
l'homme carré. Non, l'homme devient une pure intelligence, comme dit Cabet, une pure intelligence, c'est-à-dire il devient un ordonnateur de machines. Dans l'utopie de Cabet. Et ça c'est vraiment le moment où se met en place vraiment une vision utopique. Portés par des mouvements de gauche de l'émancipation par la gauche, qui se mettent en place autour des années 40.
Je trouve intéressant que si on considère ce 19e siècle, on ne trouve pas une opposition entre gauche et droite en vérité, et une réflexion sur le prolétariat, puisque les orléanistes, les partisans du libéralisme de l'époque, par exemple le grand Yves Guyot, tout à fait représentatif, qui a publié en 1867 un livre qui s'appelait L'Inventeur, explique « L'inventeur est le vrai roi ». Honneur à lui, il règne de par le génie, le plus grand des droits, et avec ce génie, il change le monde, et non pas seulement matériellement, mais socialement. Et il ajoute, avec quelque exaltation, vous allez voir, c'est la machine qui a détruit l'esclavage, ce sera elle qui détruira le prolétariat, là est la loi du progrès. Alors si on rapproche ce texte des controverses entre Jaurès et Goethe, ça devient intéressant, par exemple. Que disent Jaurès et Goethe?
Alors, sur cette question-là, Jaurès et Goethe ne sont pas en désaccord. Hein, sur, ouais, alors pour...
Je vais trop vite, c'est ça.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais on passe des années 40 où il y a des doutes. À la fin du 19e siècle, lors des débats entre Jaurès et Goethe, les doutes ont été levés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'interrogation sur la légitimité et la nécessité du progrès technique. Le progrès technique est devenu une sorte d'évidence. Le texte de Guyot que vous citez le montre de façon magnifique. On est dans le moment où se construit la figure de l'inventeur héroïque. L'inventeur devient le nouveau roi. À une époque où justement la monarchie devient une solution qui commence à être évacuée, où le républicanisme devient de plus en plus légitime et va s'installer progressivement. Évidemment, la machine est ce qui permet à la fois l'émancipation humaine, l'émancipation par rapport aux contraintes du passé. Et ce texte est fascinant. C'est-à-dire, c'est ce qui la machine, c'est ce qui permet de faire disparaître l'esclavage. La machine, c'est ce qui permet de connecter les hommes pour créer une paix universelle. Et ce discours vraiment se construit dans les années 1850-60. Et Jaurès et Goethe sont d'une certaine manière les héritiers de cette manière de voir. Pour Jaurès et Goethe, la machine... Jaurès, il y a des très beaux textes de Jaurès où il dit « La machine crée du chômage, crée de la perturbation dans le monde du travail. » Mais que disent Jaurès et Goethe? Alors évidemment de façon différente. Jaurès et Goethe disent qu'il faut domestiquer le progrès technique grâce à des outils institutionnels. Donc Goethe va appliquer une lecture un peu simplifiée du marxisme pour penser ce progrès technique. Jaurès va avoir une autre lecture. Mais dans les deux cas, ils vont en fait proposer de mettre en place une redéfinition de la propriété privée et la mise en place d'un état social comme condition de cette domestication du progrès technique qui reste discuté et contesté à la base dans le monde du travail où il y a des grèves, des controverses sur ces transformations techniques et ce qu'elles impliquent pour les travailleurs.
On voit d'ailleurs qu'un homme comme Jaurès est constamment préoccupé à la fois de ne pas freiner le progrès qui doit améliorer la condition du prolétariat et en même temps il s'inquiète du risque de chômage. Les faucheuses mécaniques suppriment 6 à 7 salariés, les moissonneuses lieuses suppriment une quinzaine d'hommes. Il n'y a pas une seule partie de la production agricole dans laquelle la machine est arrachée au cultivateur une partie de la main-d'œuvre. Et pourtant, qu'il n'y ait pas de malentendu, se hâte-t-il de dire, je ne voudrais pas que la constatation que nous faisons pût apparaître
comme une condamnation de la machine. Nous ne condamnons pas le progrès technique. Les paysans socialistes savent bien que la machine elle-même sera une libération lorsqu'elle aura été délivrée du joug du capital et de la grande propriété terrienne.
Voilà. Donc là, la lecture socialiste qui s'est mise en place, oui, c'est-à-dire la machine n'est pas un problème. La machine est exclue, en fait, de l'ordre du débat et de la discussion. La question, c'est la question du capital, la question de la répartition de la propriété et des bénéfices. Et donc, c'est une manière d'évacuer. Et ça, entre 1860 et la Seconde Guerre mondiale, globalement, c'est le discours dominant qui va structurer le monde socialiste et le monde ouvrier et le syndicalisme. C'est-à-dire que les organisations syndicales cessent de tenir des discours critiques à l'égard du progrès technique parce que ce n'est plus possible. Dans la première moitié du XIXe siècle, le progrès technique s'invente. Mais il est encore trop jeune pour être une certitude ou une évidence. Après 1850, le progrès technique est devenu, a été naturalisé comme une évidence. Donc il ne peut plus être contesté de front. Donc ce qui va être contesté, désormais, c'est l'idée que ces machines, c'est pas les machines en soi qui doivent être pensées, qui doivent être critiquées, qui doivent être contestées, mais c'est l'organisation institutionnelle dans lesquelles ces machines sont introduites. Mais l'effet indirect de ça, c'est que on cesse de penser la technique. On cesse de s'intéresser à la technique vraiment.
Pourquoi?
Mais puisqu'on ne pense plus la technique en elle-même, mais on ne pense la technique que comme finalement quelque chose qui a sa propre force interne. Et ce qu'il faut changer, c'est les règles de fonctionnement de la société. C'est-à-dire que la technique avance naturellement selon sa propre logique interne.
Cette évidence me paraît s'incarner dans un certain nombre de grands moments, par exemple les expositions universelles, les successives de 11 ans en 11 ans, et peut-être dans l'œuvre d'un certain nombre d'auteurs comme Jules Verne. S'il y a quelqu'un qui n'est pas insensible aux effets concrets...
Mais vous en savez aussi, avec Jules Verne, il y a aussi des discussions et des débats, parce qu'on a, dans son Paris au XXe siècle, la lecture enthousiaste du progrès technique est contrebalancée par une vision un peu dystopique et terrifiante des grandes cités de l'avenir, polluées. Donc, même chez Jules Verne, cette fascination... En gros, la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est l'invention de la vulgarisation, c'est l'invention d'une lecture à la fois simplifiée et fascinée du progrès technique, c'est l'invention des grandes expositions universelles, de la vulgarisation, c'est l'invention de la science-fiction aussi, les premiers romans qui tentent d'anticiper le monde mécanique futur avec une tension entre des utopies positives et des dystopies négatives qui se constituent aussi.
Mais on lit beaucoup de choses sur l'idée qu'on se fait des machines dans les uchronies ou dans les science-fiction. Il y a l'imagination, par exemple, d'un grand savant comme Berthelot, Marcelin Berthelot, le chimiste, l'emporte très très loin. Il fait un livre sur ce que sera l'an 2000. C'est intéressant à comparer avec ce qui est vraiment arrivé, que nous savons, nous. Il imagine que la chimie va être si influente et si puissante qu'on pourra faire marcher des avions avec de la chimie, que d'autre part, il y aura des petites pilules qui remplaceront les repas. Donc la terre deviendra une espèce d'immense verger, puisqu'on n'aura plus à la cultiver.
Oui.
Et les avions passant par-dessus les frontières, machine magnifique, que la machine volante de l'avion, permettra au peuple de se connaître mutuellement, ce qui fait que les frontières cesseront d'être des rives, des fleuves de sang, et que la chimie, via l'avion, apportera un nirvana universel à l'humanité.
C'est magnifique.
Oui, on comprend qu'il soit au Panthéon et d'ailleurs oui, accompagné de sa femme.
Mais oui, mais les grands chimistes, faut voir que l'industrie chimique se constitue dans la deuxième moitié du 19e siècle, connectée à tous ces enjeux, et les chimistes vont construire un futur chimique et vont faire de la chimie la condition d'une sorte d'abondance généralisée. Effectivement, donc il y a plein d'utopies. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'époque aussi où les grands savants sont canonisés par la République, vous l'avez dit avec Berthelot, et les savants se font aussi des prophètes et annonce un futur enthousiaste. Alors là, au départ, on devait parler surtout des inquiétudes et des résistances.
C'est un reproche ?
Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. On ne peut pas penser ces inquiétudes et ces critiques sans penser en même temps le discours d'enthousiasme qui se met en place. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Mais ce que j'ai essayé de souligner dans mon travail, c'est que, en réalité, le progrès technique, ce qu'on appelle le progrès technique, n'oppose pas d'un côté des technophobes qui seraient des réactionnaires qui veulent revenir au passé et des technophiles, des enthousiastes qui seraient dans le sens de la raison. C'est qu'en réalité, ce qu'on appelle le progrès technique a été à chaque époque négocié. Et moi, je veux sauver de l'immense condescendance de la postérité les grincheux, les protestataires, ceux qui n'étaient pas d'accord, parce que pour moi, ils n'étaient pas juste des buts témoins d'un passé en train de mourir, ils étaient des acteurs fondamentaux dans la négociation de ce changement technique, puisque le changement technique, si c'est juste juste une force toute puissante qui vient d'en haut par quelques savants ou quelques grandes entreprises, comme ça se met en place au 19e siècle, avec des sociétés qui seraient passives, évidemment, on est dans une société où il n'y a pas de démocratie. Le changement technique est négocié. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est de donner le point de vue à ceux qui, en général, sont exclus des récits habituels sur l'histoire du progrès technique, c'est-à-dire tous ceux qu'on rejette du côté de la réaction du conservatisme. En fait, ces gens-là ont construit aussi le progrès technique, ont modulé les trajectoires qui ont été adoptées.
Je crois que c'était important de leur donner la parole, précisément, et pas seulement aux prophètes, aux écrivains ou aux poètes. Nous allons entendre les interviews de deux anciens ouvriers de l'usine Renault dans l'émission Nuit Magnétique sur France Culture. Le 24 octobre 1995, notre réalisatrice Anne Kobilac va assurément nous donner cette archive.
Quand je suis monté, moi j'ai commencé à monter les clignotants de 4L. C'était facile à monter, hein. Il fallait mettre un petit cabochon, brancher deux fils, mettre une ampoule, et puis on passait à la voiture suivante. Bon, ceci étant, le travail était facile, mais la cadence était quand même assez rapide, et il était difficile de faire toutes les voitures dans le temps qui était imparti. La première chose que l'on m'a fait faire quand je suis rentré dans cette usine, avant de commencer à monter mes clignotants, ça a été de me mettre au stand de formation. Et alors le stand de formation, c'était une chose assez curieuse. Il y avait un panneau qui était accroché au mur, il y avait une multitude de vis et d'écrous, et on m'a donné un tournevis américain, et on m'a laissé pendant une matinée entière à visser et dévisser des écrous sur ce panneau. Bon, puis ensuite c'était la chaîne. Alors quand on arrive à la chaîne, très vite on s'aperçoit que la hantise c'est de ne pas couler, hein, d'arriver à tenir le rythme de la chaîne. Alors quand on maîtrise bien le poste, quand on a saisi toutes les petites astuces, quand les gestes sont rentrés dans la peau, là on commence à essayer de se débrouiller pour faire ce qu'on appelait à l'époque de l'avance, c'est-à-dire à travailler plus vite que le rythme de la chaîne pour avoir un petit peu de temps de libre. Pourquoi du temps de libre? Pour aller discuter avec les amis, pour se promener parfois un petit peu, pour aller casser une petite croûte ou faire autre chose. Quand on coulait, la première chose qui se passait d'ailleurs, c'est que comme la chaîne était une succession de postes, eh bien évidemment on venait gêner les amis qui travaillaient derrière. Et j'ai connu des gens, moi, qui ne souhaitaient jamais changer de poste, qui faisaient le même poste depuis des années, parce qu'ils étaient arrivés à un tel degré d'automatisme qu'ils pouvaient quasiment travailler sans penser à leur travail.
Moi, j'avais un boulot, on avait des tôles de 20 kilos. Bon, et on les passait sous la presse à la cadence de 2 ou 3 par minute. Donc, il fallait les prendre derrière, les mettre, paf, paf, paf. Et où?
Pendant 9 heures.
Pendant 9 heures. Ah oui? Alors, quand on est au S, on attend souvent quand est-ce qu'on compte les pièces qu'il y a à faire. Merde, il y en a encore tant à faire. Ça, c'est stressant, si on veut. Alors, mais il faut bien les faire. Quand on avait envie de se reposer un peu, on peut provoquer une panne.
Et comment on provoque une panne?
De toute façon, il faut vous forcer un peu sur la cadence, et puis l'outil casse. Bon, appelle le régleur pour qu'il change l'outil.
Il fallait leur donner la parole, non? Évidemment, en arrière-plan, on pense au temps moderne de Chaplin, on pense à Métropolis de Fritz Lang, on pense au meilleur des mondes de Huxley aussi, qui est un livre de 1932. C'était une émission de Colette Fellou sur France Culture, le 24 octobre 1995, les Nuits Magnétiques. Alors les voilà, vous les reconnaissez, vos ouvriers?
Alors là, on a fait un grand saut, mais c'est parce que je suis trop long, donc on fait un grand saut vers le 20e siècle. Mais
la radio question... est un moment de, comme le chemin de fer, mais encore plus sûrement.
Je me permets de vous taquiner.
Il faut être à l'heure.
Je me permets.
Vous avez toutes les autorisations dans certaines limites.
Non, mais alors là, on est au cœur de ce qui c'est bien d'avoir fait passer ces témoignages, parce qu'on est au cœur de la négociation ordinaire avec ce nouvel monde mécanique qui se met en place. C'est-à-dire que là, ces ouvriers racontent comment ils s'ajustent en fait à ce nouveau monde mécanique, comment ils deviennent eux-mêmes des automatismes, comment aussi ils arrivent à garder une marge d'autonomie et de liberté par rapport à ce travail. Derrière le récit, là, il y a la taylorisation au début du XXe siècle, puis les logiques d'automatisation croissante sur lesquelles on n'a pas le temps de s'étendre, jusque en particulier dans le secteur automobile, qui va devenir évidemment un secteur central de l'économie du XXe siècle. Et donc la question de la transformation du travail, de son organisation et des réactions ouvrières face à cette rationalisation, c'est une question très importante. Et il n'y a plus de brain machine au XXe siècle, évidemment, puisque les rapports sociaux se sont structurés de telle manière que le brain machine devient impossible, tout simplement, et les conditions de production dans l'usine font que ce type de pratique devient impossible. Les ouvriers s'adaptent et les ouvriers trouvent d'autres manières, en fait, pour essayer de reconquérir une forme d'autonomie. Et là, inventer une panne. Comment faire une panne dans l'usine pour reconquérir un peu de temps à un moment où le contrôle du temps en fait devient un enjeu central de l'industrie face à des employeurs qui essayent de rationaliser le temps pour améliorer la productivité. Les ouvriers cherchent en permanence à retrouver une sorte de liberté par rapport à ces temporalités.
Il est remarquable que ces années-là, les années 70, 80, sont celles où émergent un certain nombre d'auteurs importants qui, plus que devant, mettent en cause le progrès en tant que tel. Je pense à, on ne peut que les citer, hein, en forme d'hommage, mais Mumford, Jacques Ellul, c'était un auteur dont l'importance, je crois, grandit plus récemment. Et ces gens-là sont, d'une certaine façon, ou également Ivan Illich, fameux Ivan Illich, sont un peu les prophètes d'une décadence de l'idée de progrès, ou bien simplement correspondent-ils à ce que vous disiez, c'est-à-dire que ils affirment la nécessité d'une sorte de transaction entre le progrès et un certain bien-être social. Et ce sera quasiment votre dernière parole. Alors vous allez la condenser.
C'est terrible. Mais c'est terrible. On est dans les Trente Glorieuses, là. Les ouvriers de l'industrie, plein emploi, donc qui vont être marqués par, dans les années 70, un arrêt de cette période de croissance. Donc il y a un retour de la contestation en fait du monde technique dans les années 70 qui est très net. Et c'est là que vont être publiées les grandes œuvres de Lewis Mumford, le mythe de la machine au début des années 70. Ivan Illich aussi qui va publier toute une série de textes sur ce qu'il appelle les outils conviviaux. Illich n'est pas contre le progrès technique. Illich dit qu'il faut inventer une trajectoire technique qui permettrait de retrouver de l'autonomie et de la liberté.
Très bien, mais on va l'inventer collectivement. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro, François Jarige. Je donne les titres de vos ouvrages importants, technocritiques, nous l'avons évoqué, du refus des machines à la contestation des technosciences à la découverte en 2014, ce qui permet évidemment de rapprocher plus que nous n'avons pu le faire ces inquiétudes anciennes à celles que peuvent susciter les nouvelles technologies aujourd'hui. Nous en reparlerons dans une autre émission. Vous avez publié avec Emmanuel Furex un livre qui s'appelait, je l'ai cité également, La modernité désenchantée, relire l'histoire du 19e siècle. Et puis tout récemment, avec Thomas Leroux, vous offrez, je crois que ce n'est même pas encore en librairie.
Si,
c'est une occasion pour vous de le dire, je le souhaitais. La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, paru au Seuil en octobre 17. Quelle était votre intention en quelques mots brefs?
C'est une tentative pour relire les deux derniers siècles de l'industrialisation du point de vue des substances qu'elle émet et du point de vue des débats. En gros, ça prolonge mon travail antérieur sur les débats sociaux autour du changement technique par une histoire environnementale qui interroge nos choix industriels et techniques à partir de cette question des pollutions. Mais j'ai évidemment pas le temps de parler de ça. Mais Thomas est dans la salle et j'espère que vous aurez l'occasion de l'inviter pour discuter de ces questions dans une prochaine émission.
Vos applaudissements, mes chers spectateurs et auditeurs, saluent une admirable camaraderie. Je le mesure bien. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Je n'ai pas pu empêcher cette connivence qui m'a été imposée.
Désolé.
Eh bien, vous pourrez, vous le savez, retrouver une bibliographie plus complète sur notre site. Une bibliographie à laquelle veille Jeanne Guéroux, qui est à mes côtés, avec les références des documents sonores utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Podcaster, balado diffusé, choisirez. Samedi prochain, la chaîne France Culture consacrera un week-end thématique, vous l'avez déjà entendu Alain Finkielkraut le rappeler tout à l'heure, consacré au 100e anniversaire de la Révolution russe. Notre contribution sera, grâce à Sophie Queuré, une émission consacrée à l'actualité d'un regard français sur la Russie, depuis Lénine jusqu'à l'actuel Vladimir Poutine. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet présentée devant le magnifique et approbatif public de Blois, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur, aussi réalisée par Anne Kobilac, je l'ai dit, avec Alexandre Abergel, Frédéric Kérou et Alexandre James à la prise de son. Je les remercie particulièrement, ils sont exilés de Paris, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Amélie Briand-Lejeune.